c'est le contexte. Dans quel contexte on est? Alors, quels sont les contextes qui sont propices à faire quelque chose? Parce que si on regarde un axe accord et certitude, s'il y a peu d'accord, personne n'est d'accord sur rien, et il y a peu de certitude, on est certain que c'est le bordel, c'est le chaos. D'accord? On ne peut pas gérer, on ne peut pas changer dans un contexte de chaos. Si ici, tout le monde est plein de certitude, tout le monde est complètement d'accord, ben c'est impossible de changer aussi, tout est statique.
Ils ont raison.
Pourquoi est-ce qu'on changerait? Tout va bien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Donc, nous, notre terrain de jeu, il est entre les deux, quelque part. Et quand on fait le canage, quand on regarde les questions, c'est aussi de se dire, est-ce que le système est suffisamment stable pour pouvoir faire quelque chose, mais pas tellement stable que ça ne fera rien, et suffisamment en mouvement pour que ça soit utile, mais pas tellement en mouvement que ça va tout être fait à refaire la semaine prochaine. D'accord ? Donc, juste avoir un peu cette notion de on est où là, entre la stabilité et le chaos, parce que c'est, y a un sweet spot au milieu où on peut agir. Si c'est trop à l'extrême, ça ne servira à rien. Comme l'exemple de le gars il se casse et il y a un nouveau manager qui arrive dans 3 semaines, c'est juste pas la peine. Il faut attendre. C'est bon pour vous? Alors, ça, je pense que vous connaissez la cartographie des acteurs sur la sociodynamique. Donc, vous avez différents. Alors là, c'est les grandes familles. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a 8 en tout sur la carte complète. Mais l'idée, c'est de se dire, dans un cas de changement, les gros détracteurs, les opposants, on ne va pas se focaliser sur eux. On va plutôt mettre notre énergie avec les alliés. Et prouver les cas, faire le case for change et les premiers Tiger Team, les premières réussites, là où il y a de l'envie et il y a de l'énergie. D'accord. Donner son énergie là où il y a déjà de l'énergie, ça donne beaucoup mieux, plus de résultats que donner toute notre énergie là où ils s'en foutent complètement. D'accord. Ça ne rend pas beaucoup de résultats. Donc, pas ignorer, mais surtout pas se focaliser. Donc là aussi, vous êtes sur quel terrain? Quand vous faites une qualif, quand vous faites cette écoute, qui sont où les gars? Ils sont déchirés? Ils se disent, je vais gagner, mais je vais perdre. Quand par exemple, un patron d'agence, on lui dit, il faut que tu fermes ton agence. Donc c'est pas la fin du monde pour lui, mais c'est la fin de son monde dans l'instant. Donc il va être déchiré. Donc comment on fait pour accompagner quelqu'un là-dedans? D'accord? Avec des équipes potentiellement qui sont opposants. Bon, la fermeture d'une agence, c'est un mauvais exemple pour de la GA, parce que ça n'a rien à voir. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste pour illustrer le propos. D'accord. Donc l'idée, c'est de mettre son énergie là où il y a de l'énergie. D'accord. Donc, là aussi, je crois que c'est la prochaine. Ouais. Et pour savoir s'il y a de l'énergie, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est assez basique. C'est juste une matrice besoin et envie. C'est quoi le besoin? Quelqu'un qui dit, il faut qu'on travaille en GA. Pourquoi? C'est quoi le besoin opérationnel, réel? Pourquoi ils ont besoin de se donner du mal pour travailler différemment? C'est quoi le caillou? C'est quoi le truc qu'ils veulent craquer? Et c'est quoi l'envie de travailler différemment? Parce que si tout le monde est d'accord qu'il faut faire quelque chose, mais personne n'a envie de bouger, on ne fait pas grand-chose. Donc, quelque part, le monde idéal, on est ici. Il y a un besoin business fort et tout le monde est « yippi, on y va ». La réalité, c'est qu'on navigue souvent par là. Il y a un éventail. Il y a un éventail d'envie, mais s'il y a un besoin faible, réellement faible, c'est dur. Hein?
Des fois, les besoins des uns ne font pas envie aux autres.
Aussi. Non, parce que quelqu'un qui a besoin mais pas envie.
Une partie qui a besoin et l'autre qui a rien à foutre.
Oui, parce que ça peut être. Si tu as besoin mais pas envie, tu ne le fais pas. Si tu as envie et pas besoin, tu risques de le faire mais pas longtemps. Alors, c'est une perte de temps. D'accord? Donc, pensez, c'est quoi l'éventail du besoin et de l'envie dans mon cas? Là aussi, ce n'est pas super rationnel. Hein. C'est là où il y a les antennes qui frétillent. C'est bon pour vous? Voilà, et là, c'était pour dire que il y a des repères quand on fait ce cadrage, ces étapes. Et en fait, à chaque fois, il y a presque des no-go. Le contact sponsor, ce qu'on disait hier dans la roue 1, 2, 3, 4, 5. Le premier contact, si on sent que c'est complètement à côté de la plaque, c'est là qu'il faut dire, c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord? C'est un no-go là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien ensemble, mais on fera peut-être quelque chose de différent. D'accord? C'est pas commande livraison. C'est écoute et réponse. C'est listening and responding, c'est pas listening and obeying. C'est pas la même chose. Avec les interviews, même chose. Quand on fait la qualif, on fait le pré-cadrage, on peut faire les interviews et se rendre compte que malgré un contact génial avec le sponsor qui a tout compris, qui est clair dans ses baskets, Un cran en dessous, c'est le foutoir le plus complet. Il faut faire autre chose, d'abord, ou carrément.
Oui. Systématiquement les interviews ou pas systématiquement?
Ça dépend.
Merci Edouard, j'adore cette réponse.
Ça dépend de ce qu'on... Ça dépend un peu de la demande et du contexte.
Okay.
Et ça dépend aussi de là où on est. Là, il y en a celui qu'on a fait avec Cédric et Stéphane, je n'ai pas fait d'interview. Donc, j'ai rencontré Carole, j'ai rencontré l'équipe. On a fait une question assez approfondie de questions-réponses et ça m'a permis de juger un peu.
Voilà, tu as eu ça quand même, en termes de retour.
Bien sûr, donc j'ai pu voir un peu où est l'équipe, c'était quoi les questions, c'était quoi leur crainte, parce que c'est ça qui ressort dans les questions. De quoi ils avaient peur, de quoi ils avaient envie. Ça m'a permis de savoir le terrain que j'étais. Je n'ai pas eu besoin de faire des interviews. Là, j'en ai un autre où c'est sur un CODIR, où là, je vais interviewer chaque membre du CODIR.
Ouais, alors c'est la question que j'allais poser, du coup, entre interviews individuelles et quelles convictions tu as sur les interviews collectives ou même en petits groupes.
Et là aussi, ça dépend. Okay. Si je suis sur un niveau assez haut, où il y a beaucoup d'ego, alors si j'interviewe 3 sur les 10, pourquoi pas les autres 7? Ils ne vont pas être contents et ça va créer des freins. Donc j'interviewe tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Okay. Si je suis sur une équipe plus opérationnelle où il n'y a pas cet enjeu de pouvoir et d'ego, je vais faire un échantillon parce qu'au bout de 3-4 interviews, on arrive à savoir qu'est-ce qui se répète et qu'est-ce qui diverge.
Par contre, la préco, enfin, sauf si tu as eu d'autres moyens d'avoir les infos, la préco, c'est quand même de faire
des interviews.
Et individuelles. Ouais. Et individuel. Jamais collectives.
Avec tout parti, s'il n'y a pas de question d'ego, tout. Si tu en as 4, allez sur 4-5, ouais. Ça permet déjà. Mais okay. Si vous pouvez, faites des interviews.
Faites des interviews.
Ça permet tellement de déminer et d'être plus confort.
Et puis comment vous détectez, parce que des fois quand on fait des interviews, les gens disent, ils savent très bien qu'il y a un retour au sponsor à un certain moment, ils disent ce qu'ils cachent réellement, leurs besoins, etc. Mm-hmm. Est-ce que vous arrivez à détecter?
Alors, il y a deux choses pour faire pour ça. Un, d'entrée de jeu, leur rappeler que c'est un interview qui est confidentiel et qu'il n'y aura pas de verbatim. Et leur dire que l'issue de cette interview, je partagerai pas ce que tu as dit, mais ce que j'ai compris.
Et pas individuellement, on leur dit, on fait toujours une synthèse collective, et on ne raccroche aucun propos à une personne. On prend ses précautions, mais en général,
c'est pas... Alors, moi, je n'ai pas dit que... Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de verbatim, et c'est une compréhension globale de ce qu'on a compris, du contexte. Et souvent, ces choses-là, ça ressort dans les dernières 5 minutes. Pour une interview de 45 minutes, les premières 35 minutes sont d'habitude, c'est informatif. Mais c'est les dernières 10-5 minutes où là, on arrive à capter des choses.
Parfois, ça peut être utile aussi quand on demande une liste des personnes interviewées, on peut déjà se faire enfumer. Ça peut être intéressant quand ils vont nous parler de ce qui se passe, de mentionner quelques personnes, on sent un peu comme dans les Design Thinking, on va aller avoir un peu les profils extrêmes, d'aller voir s'il y a des personnes qui reviennent dans les interviews ou si on sent qu'on a un truc trop lisse, aussi d'aller éventuellement rajouter un ou deux autres qui vont nous donner les aspérités dont on a besoin.
Oui, tout à fait, on peut demander, mais si on sait qu'il y a un peu des détracteurs, demandez à interviewer un détracteur, demandez pas juste des gens qui
tournent. Je pense que ça vous est arrivé, alors une question qui peut paraître un petit peu décorrélée, mais d'interviewer des personnes dans le cadre d'une mise en place de gouvernance adaptative qui portaient un rôle de représentant du personnel, par exemple, et est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à des propos qui ont été remontés? Ou en fait, à la fois, il y avait un côté qui pouvait être aligné sur son activité en tant que collaborateur et en même temps quelque chose qui dépassait.
Pas ça, par contre, ce que tu dis sur ça, non. Par contre, moi, ce qui on verra peut-être dans les rôles. Il faut faire super attention dans l'élection sans candidat sur ces rôles-là, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui déjà en fait faisait ce rôle un peu genre type PMO et qui se sent hyper... ça, il faut vraiment poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue déjà ce rôle? Parce que si tu fais une élection sans candidat et que la personne n'est pas élue, alors là c'est...
C'est sa fonction.
C'est pas exactement une
réponse pour la secrétaire.
Les trucs touchy, en tout cas...
Tout à fait, moi j'ai eu le cas d'un CODIR où c'était l'assistante du directeur qui était en fait le rôle secrétaire. Et faire une élection sans candidat, c'était juste lui dire, bah t'as plus de place ici. C'est pas cool. D'accord, on ne fait pas des élections pour démettre les personnes de leur fonction. Non, mais le résultat, c'est ça, si on ne fait pas
gaffe. Tous
les 5 ans. D'accord, donc faites des interviews, c'est quand même c'est utile, et ça va nous laisser justement les informations pour faire le cadrage. D'accord, et ensuite, on peut faire de la conception et du conducteur.
Et le cadrage, parce que certains disaient, on a encore des questions et tout ça, le cadrage, c'est vraiment l'occasion de reposer les dernières questions aux commanditaires et d'affiner ce qu'on a perçu.
Oui, il peut se passer qu'en cadrage, on se rend compte qu'on n'a pas compris. Il dit non, c'est pas ça. Ben ok, au moins on sait ce qu'il ne faut pas faire. D'accord, donc ça peut être éclairatif aussi. D'accord, ou un gars qui on ne sait pas vraiment, on n'a toujours pas compris, ben on prêche le faux pour avoir le vrai. On fait une V0 pour dire ben c'est une pièce à casser, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon pour vous? D'accord, donc faut vraiment voir.
Tu veux dire quoi, conducteur? On n'a pas encore qu'on le voit ce truc-là.
On n'a pas encore fait. Conducteur, c'est la prochaine session, module 2. C'est le design un peu plus détaillé de l'intervention.
Mais du coup, parce que là tu dis on ne fait pas d'élection pour démettre les personnes, effectivement, ou élection ou création de rôle, parce que c'est quelque part, là on parlait des secrétaires, mais finalement on parlait par exemple du rôle de PMO, si à un moment donné ils font des rôles et que quelqu'un ne retrouve plus sa place, par exemple, je ne sais pas, pour la gestion des budgets, pour piloter certains projets. Du coup, le rôle du manager, en fait, dans la démarche, faut l'anticiper dans la préparation du séminaire. Ça, c'est vraiment un point d'intention au niveau du casting, au niveau des rôles, en disant non, droit de veto, ça ne va pas marcher.
C'est machine qui va faire secrétaire, que, vu qu'il y a machin qui est déjà le budget, ouais, évidemment, on ne va pas le staffer, tu vois.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que lors de la création des rôles, le manager doit dire, je suis d'accord et j'attribue, il va dire, ok, le lead, celui qui va incarner ce rôle, c'est un tel.
Oui, absolument. Il faut prendre soin des gens. Ouais. Il faut penser que le système ne prend pas soin des gens. Il n'y a que les gens qui prennent soin des gens. Donc il faut avoir cet espace, ce moment. C'est bon, j'accélère un peu parce que je suis bête. Voilà, là, c'est juste quelques repères. On en a parlé. D'accord, ça donne un moment, ça formalise. Faire un cadrage, ce n'est pas un exercice de style. Hein, c'est réellement utile.
Ça rassure chacun.
Quelque part, pour nous, c'est la contractualisation. On est d'accord qu'on va livrer ça et que c'est bien ça vos objectifs. Le comment on va s'y prendre après, d'accord, est-ce qu'on fait une ouverture X ou une ouverture Y, ça c'est notre soupe. Mais on est d'accord qu'on va livrer ça et que c'est ça que tu veux.
Donc, c'est la signature, tu fais qu'avec le commanditaire.
Pardon ?
La signature, tu fais qu'avec le commanditaire.
Non, sauf s'il veut ajouter, associer.
Oui, pas forcément, il va associer d'autres personnes, c'est pas forcément juste du one-to-one.
Parce qu'en coaching d'équipe, on associe l'ensemble de l'équipe à la signature.
Quelque part, ce qu'on a fait ensemble, quand on a présenté.
Oui, il y avait presque explicite.
Moi, ce que j'ai fait, j'ai présenté et j'ai dit maintenant, le choix vous appartient, moi je pars. Ayez cette conversation, mais sans moi. Je ne veux pas vous influencer, c'est vous qui décidez. Il faut être sûr que la conversation ait lieu quelque part. Mais sur le détail de ensuite, qu'est-ce qu'on va livrer? Parce qu'une équipe qui est prête à y aller, ce n'est pas la même chose que les objectifs du commanditaire. Parce qu'il y a le moyen et il y a l'objectif. Ils sont d'accord sur le moyen, mais il faut être clair sur l'objectif. Pas toujours la même chose. C'est bon? Et pour terminer, ça je vais sauter. Voilà.
Sinon, il y a là,
on n'y est pas encore. Là, c'est juste un petit pense-bête, des points d'intention, de dire par rapport à certaines situations impossibles, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Par exemple, certains éléments récoltés nous enseignent que les conditions ne sont pas réunies pour un démarrage en JA, on propose un report. On n'a pas besoin de. On fait juste un petit bout. D'accord. Il y a un intérêt marqué pour la démarche, mais les enjeux de la démarche et ce qu'elle s'implique ne sont pas bien intégrés. Les gens ne comprennent pas bien. D'accord, c'est pas qu'ils veulent ou veulent pas, c'est qu'ils comprennent pas ce que c'est réellement. Faire une journée découverte. Comme ça, s'ils disent oui, ils savent à quoi ils disent oui. Donc, l'équipe est assez opérationnelle, les fonctions semblent cohérentes, mais il y a peu d'intérêt pour l'agilité, mais un besoin d'amélioration. Là, on prend des bouts de GR. Il n'y a pas besoin de faire le full multi, parce que ça ne répond pas aux besoins. Donc, peut-être juste la réunion opérationnelle va suffire.
Journée découverte, le contenu, c'est quoi?
La journée découverte, c'est toucher du doigt de la GR.
Donc, faire
un
témoignage, c'est quoi des rôles, quel potentiellement pourrait être un rôle chez nous, faire une réunion opérationnelle, faire un petit bout, c'est toucher du doigt.
RSO, c'est quoi? C'est la réunion de stratégie. Et RE, c'est
oui.
Raison d'être.
Réunion opérationnelle, raison d'être, réunion de stratégie opérationnelle. D'accord, on peut faire peut-être juste un bout. Voilà, les conditions sont réunies, là, bonsaï. Il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de raison de ne pas y aller, autant y aller. Et si vous avez un truc pour un premier cercle d'une direction, une situation semblant complexe, faites appel à nous.
Faites appel à Edouard.
Partir sur un build ou setup, c'est deux choses.
C'est la même chose. C'est deux mots pour dire la même chose. Ah, okay. Alors, c'est mettre en place un cercle. Okay. Il y a certaines personnes qui appellent ça un build, d'autres un setup. Okay. Alors on a mis les deux. D'accord. Pour éviter la confusion. Et ça, c'est juste pour faire un rappel sur ben, c'est quoi les ingrédients du millefeuille de la GA.
Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est en GA?
Oui, aussi. D'accord, parce qu'on peut commencer avec les fonctions et aller tout de suite sur une réunion opérationnelle. Le bénéfice, c'est on a de l'efficacité opérationnelle. On peut s'arrêter là. D'accord, si on s'arrête là, on n'est pas en GA. On a piqué un bout de GA, mais on n'est pas en GA. Faire des REX, mais c'est juste une bonne idée, ce n'est pas l'apanage de la GA, mais c'est quand même là où on a du feedback collectif. Et encourager les équipes à faire du REX, c'est juste une bonne idée. Le ticket d'entrée, c'est en fait la raison d'être. Parce qu'une fois qu'on a une raison d'être, on a aligné les acteurs. Une fois qu'on a une raison d'être, on peut dire ben, quelles sont nos priorités de mise en œuvre de notre raison d'être. On peut faire une stratégie opérationnelle, on va aligner les priorités. Une fois qu'on a une raison d'être, on peut faire des rôles. Quels sont les rôles manquants ou nécessaires pour faire vivre notre raison d'être? Là, on a la clarté et de la subsidiarité. Et une fois qu'on a les rôles, ben là, on peut faire de la réunion de gouvernance où on peut avoir l'agilité organisationnelle. C'est là qu'on est en GA. D'accord, on dit « je suis en GA », ben on est là. Alors, il y a des déformations de langage, parce qu'il y a des équipes qui font que ça, ils disent ben, « on est en GA ». Pas tout à fait. Mais bon, quoi qu'il arrive, où que soit notre positionnement dans le millefeuille, l'état d'esprit, leur confiance, liberté et responsabilité, et les capacités à travailler en intelligence collective, il faut qu'elles soient présentes. Ce n'est pas parce qu'on est en haut du millefeuille qu'on peut dire ben, « on s'en fout de travailler en intelligence collective, et de toute façon, tant que tout le monde obéit, ça roule ». Donc ça ne marchera pas, c'est juste pas. Donc, il faut avoir, pas forcément autant, mais il faut que ça soit présent. C'est pour ça que c'est une pyramide un peu graduée. D'accord, quelqu'un qui n'est pas du tout dedans, ben, ce n'est pas la peine, il ne pourra pas faire de la réunion opérationnelle. Alors, un patron qui ne lâche pas prise, il va interrompre les autres, il va dire « non, ça c'est pas une tension, on a déjà gonflé ». Quelqu'un qui dit « alors moi j'ai une tension sur le besoin, t'en fais, oh, je t'en parle après ». Non, bah, difficile de faire une réunion opérationnelle avec quelqu'un qui ne lâche pas prise, qui ne laisse pas parler les autres, par exemple.
Mais aussi, ça, on l'avait fait aussi pour montrer qu'on a la puissance au niveau de ce qu'on, d'où on est aussi. Quoi. C'est-à-dire, pour bien clarifier, tout est possible, par contre, vous n'aurez pas la puissance de la GA tant que vous n'avez pas les rôles de la réunion gouvernement.
Ouais, tu vois, j'étais en train d'échanger avec mon collègue, je lui disais, moi, j'ai quasiment tout sauf les rôles. Mais malgré tout, ils en font sans le savoir. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de le conscientiser. Parce qu'on a amené des petits bouts. On a dit, voilà, c'est des outils issus de la GA. On a des sujets concrets parce que ça avait du sens opérationnellement, comme la stratégie et la raison d'être depuis longtemps, parce que ça faisait partie de l'ADN de l'entité de cultiver sa raison d'être. Mais tu vois, on n'a pas. Je trouve que c'est important finalement, même quand tu as toutes les briques, moi il manque que les rôles, donc je vais faire. Mais après, c'est de conscientiser, c'est de dire on est en GA, donc qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que ça veut dire que ça implique des postures, ça implique un état d'esprit. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on a les briques, mais sans que ce soit incarné. Je sais pas si c'est.
Bien sûr, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend.
Ouais.
Les postures, c'est comment on s'y prend, c'est pas qu'est-ce qu'on fait.
Ouais.
Dans le cadencement, là, Edouard, la réunion stratégique,
là.
Elle est forcément là.
Non, justement, c'est. Et les rôles, juste, c'est. Est-ce que tu fais les rôles avant ou après?
Tu peux choisir.
En fait, okay. Tu peux choisir.
Ça, c'est juste pour dire que faire une stratégie opérationnelle sans raison d'être n'a pas beaucoup de sens.
Okay.
Par contre, ça peut être super intéressant de partir de quoi on a besoin et de la stratégie, c'est quoi nos livrables, et de dire ben, est-ce qu'on a les bonnes personnes pour le faire? Ah, bah tiens, il nous manque. C'est par rapport au rôle manquant, tiens, est-ce qu'il ne manquerait pas un rôle comme ou un rôle machin.
Et après, on est d'accord que si on a du sens, comme ce qu'on évoquait hier avec Miguel, dans la raison d'être, normalement, la méta-raison d'être doit être celle de l'entreprise. Finalement, si tu te rapproches de l'entité, tu es à la limite de l'ambition. Je ne sais pas si on voulait être correct. Hein. Si on voulait être limite correct, c'est finalement, c'est l'ambition qui est dans la lignée de la raison d'être, en fait, de l'entreprise. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on incarne la raison d'être de l'entreprise dans nos actions du quotidien pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais ce qu'on a, c'est un peu galvaudé, c'est plus une ambition.
Ou une vision.
Ou une vision. C'est OK si on l'appelle comme ça, du coup.
C'est vrai que moi, je ne la refais pas, enfin, en tout cas, sur quand on n'est pas en pure GA. Par exemple, typiquement, il y a une réorganisation. La direction a été créée, on ne va pas forcément refaire la raison d'être. On sait pourquoi ça a été créé, la mission, elle est claire, etc. C'est plus partagé et échanger, on va, enfin, quand le truc n'est pas forcément pertinent de refaire.
C'est quelque chose qui ressemble à pourquoi
une vision au moyen terme.
Pour faire quoi dans quel but et qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui permet à l'équipe de faire corps, sur quoi
Et que les acteurs sont alignés dessus. Parce que s'il y a une magnifique raison d'être et tout le monde s'en fout.
C'est dommage de parvenir sur les parties prenantes et, nos, et les redevabilités qu'on a à l'égard de ces parties prenantes quand même. Dans ce cas-là.
Tu peux le faire séparément. C'est qui nous le fait, c'est qui nous partie prenante.
C'est la création de valeur.
Et sur ce que tu évoquais en outils, la dernière fois on s'est resynchronisé parce qu'avec l'arrivée du nouveau DSI, on s'est quand même re-challengé sur ce qu'on devait être, continuer à exister dans un domaine un peu... l'IT qui peut faire qu'on peut disparaître très vite si on n'est pas up to date, et ben, j'ai appliqué le decision gradient du coup pour voir après sur la reformulation, comment est-ce qu'ils étaient à l'aise ou pas finalement avec un petit peu ce chemin qu'on prenait, le sens qu'on prenait, pourquoi on y allait. Mm-hmm. Pour être bien sûr au moins
de mesurer l'appétence. C'est bon pour vous? Quelques repères au niveau du cadrage, quelques idées, en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert et comment on s'y prend et pourquoi c'est important? Le but de cette journée, c'est ça. Hein. Parce que sinon, on est dans commande-livraison. Et commande-livraison, c'est pas formidable, forcément, pour ce genre d'exercice. Je te passe la zapette, Mickaël.
On va passer sur un autre temps, là, vous êtes à nouveau un peu plus actif.
C'est répétition, n'est-ce pas?
Alors, voilà.
Oh, t'as fait? Non, je crois.